La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier arrêt de notre compagnie des auteurs consacrée depuis lundi à Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, le poète, nous en parlions hier, mais aussi bien entendu le critique d'art, l'auteur notamment du livre Les peintres cubistes, méditations artistiques, publié en 1913, la belle année qui a précédé le suicide de l'Europe. C'est sur cet aspect de la production d'Apollinaire que nous nous arrêtons aujourd'hui, sur l'homme qui a tant fait pour le développement des avant-gardes picturales en France à une époque où Paris était justement le centre créatif du monde. Nous le faisons à l'occasion de la belle exposition qui vient de s'ouvrir à l'Orangerie à Paris et qui se tiendra jusqu'au 18 juillet prochain sous le titre Apollinaire, le regard du poète. On vous y emmène. Nous sommes ici au musée de l'Orangerie avec mes trois invités. D'abord Laurence Descartes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice du patrimoine, directrice de ce musée de l'Orangerie. Merci de nous accueillir chez vous. À vos côtés, Cécile Girardeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également conservatrice du patrimoine à l'Orangerie et co-commissaire de cette exposition. Et enfin Peter Reed, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un grand livre sur Picasso et Apollinaire, Picasso à qui une grande salle est consacrée ici, étant donné évidemment l'importance qu'Apollinaire et lui ont eu dans la vie l'un de l'autre. C'est donc une exposition qui recouvre 16 années de la vie d'Apollinaire entre 1902 et 1918, Laurence Descartes. 16 années qui sont cruciales à la fois dans l'histoire de l'art moderne et aussi, évidemment, dans la vie d'Apollinaire.
Oui, absolument. Le propos de l'exposition, c'est au fond de retrouver le regard d'Apollinaire sur les arts de son temps. Et il se trouve que ces arts sont évidemment foisonnants. On est à une période de révolution esthétique absolument majeure, qu'Apollinaire va accompagner, va d'un certain point de vue d'ailleurs anticiper par certains aspects, et dont il identifiera en tout cas les acteurs principaux, Matisse, Picasso, pour ne citer que les deux grands géants, évidemment, qui vont s'imposer au fil du XXe siècle, mais aussi le mouvement crucial qu'est le cubisme, comme la révolution plastique, esthétique absolument fondamentale des années 10. Mais son intérêt est large, il est éclectique. La question de l'éclectisme d'Apollinaire est posée dans l'exposition très largement, puisque c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à des formes d'expression populaire, hein, de spectacle. On parle du cirque, on parle du cinéma, dont il pressent qu'il sera aussi un moyen d'expression absolument dominant pour le XXe siècle, et il n'avait pas complètement tort, apparemment, et bien sûr un intérêt esthétique et non pas ethnographique pour les arts extra-européens, les arts africains. Apollinaire est un des grands acteurs de cette découverte ou de cette invention de l'art africain comme élément esthétique, comme la constitutif d'un beau nouveau, d'un beau autre et d'un beau moderne. Et ça, c'est aussi un élément évidemment très important dans sa relation avec Picasso, très important dans sa relation avec le marchand et collectionneur Paul Guillaume aussi.
Donc 16 années, Laurence Descartes, on pourrait se dire c'est assez peu, mais en fait, il faut le remettre à l'échelle de la vie d'Apollinaire, qui est courte, et son intérêt pour les arts plastiques commence en réalité très très jeune.
Très jeune, très jeune, et on le pressent dans la première salle de cette exposition, on voit un dessin de jeunesse sans doute d'Apollinaire, on voit un intérêt pour les arts visuels, pour l'expression, si vous voulez, plastique, très jeune, au-delà de l'intérêt évidemment pour la question littéraire et poétique. On sent que les deux sont quand même assez intimement mêlés chez lui. C'est quelqu'un qui, d'un certain point de vue, ne sépare pas, je pense, ces formes d'expression, qui construit constamment des correspondances, des échos, des passerelles, et c'est ce qui va le rendre si sensible aux questions posées par les artistes de sa génération, parce que, d'un certain point de vue, lui aussi se pose ces questions, les traduira dans une recherche graphique et typographique absolument éblouissante, qui sont l'invention des calligrammes, qui est vraiment un très grand moment, là aussi, de la participation de l'Apollinaire à l'histoire des arts de cette période, qui est une espèce de synthèse synthèse entre poésie et invention plastique, quelque chose qui dérive du cubisme, d'ailleurs en grande partie. Et là, on voit bien que, d'un certain point de vue, c'est quelque chose qui réunit symboliquement toutes les passions d'Apollinaire.
Donc on est ici dans presque la première salle de cette exposition. Est-ce qu'il y a donc des dessins d'Apollinaire? Est-ce que lui-même dessinait?
Oui, lui-même dessinait, absolument. Et nous, alors, j'ai parlé d'un dessin de jeunesse, mais on a par exemple aussi, beaucoup plus tard, pendant la guerre, là, on est juste devant trois dessins qui sont datés de 1916, au moment où Apollinaire est sur le front.
Et, ça représente...
Alors ça représente le pas de l'embusqué. D'abord ça s'appelle le pas de l'embusqué, en tout cas le dessin central, et on voit que on tourne autour de la question de la représentation de la vie militaire, si je puis dire, revue et refantasmée et repoétisée par Apollinaire aussi.
Est-ce qu'il considérait ces dessins comme de pur loisir, ou est-ce que pour lui ça faisait partie d'une démarche artistique, et est-ce qu'il montrait d'ailleurs ses dessins à ses amis peintres?
Alors, je pense que ça fait partie d'une démarche artistique, Peter, mais
Peter Reed, vous allez pouvoir nous éclairer.
Je comparerais cela peut-être à l'œuvre de Max Jacob. Max Jacob, comme Apollinaire, était poète, mais aussi dessinateur. Et pendant la guerre, en fait, Max a survécu grâce à son talent de dessinateur. Il a pu vendre des œuvres. Mais pour Apollinaire, c'était des cadeaux. En fait, ces peintures qu'on a devant nous à la gouache ont été réalisées pendant sa convalescence. À l'hôpital, il avait été blessé d'un éclat d'obus et il réalisait donc de très nombreuses aquarelles et dessins à la gouache qu'il distribuait très librement à ses amis. Donc il en a offert plusieurs à Paul Guillaume, mais aussi à Picasso. On a un dessin offert à Picasso dans cette exposition.
Et Picasso, bien entendu, lui offrait de nombreux dessins. Il y a ici un carnet dont Picasso a dessiné la couverture.
Ah oui, absolument. À sa mort, en novembre 1918, Apollinaire possédait plus de 100 œuvres de Picasso. Donc c'était un poète très pauvre. Selon son épouse, ils avaient 50 francs en banque à la mort d'Apollinaire. Il habitait un bel appartement sans salle de bain. Mais il était entouré
sous les toits, quand même.
Sous les toits, à Saint-Germain-des-Prés, avec une terrasse sur les toits qu'il a construit lui-même, avec une belle vue sur les toits de Saint-Germain-des-Prés, donc. Mais au cinquième étage sans ascenseur, donc il fallait pas oublier le pain et le café. Et parmi les cadeaux que lui a offert Picasso, il y avait plusieurs objets de la vie quotidienne transformés en œuvres d'art. Et là, ce que nous avons devant nous, c'est un carnet de notes des Galeries Lafayette. Et imprimé sur la couverture, il y a la forme d'une colombe. Et là-dessus, Picasso a dessiné un masque africain, mais un masque africain qui est rayonnant de couleurs et qui rappelle le côté solaire, apollinien, je dirais, de l'identité d'Apollinaire.
Oui, alors 50 francs, mais une collection incroyable d'art africain, de peinture, et en fait une richesse extraordinaire, en tout cas ce qui allait devenir une collection d'une richesse extraordinaire.
À mes yeux, à côté de la collection de Gertrude Stein, c'était la plus belle collection d'art contemporain en France. Il y avait des œuvres de Cézanne, de Delaunay, de Géricault, d'Archipenko, de Bancusi, de Matisse, de Picasso, de Sonia Delaunay, des Russes, Larionov et Goncharova, une très belle collection d'œuvres de Larionov et Goncharova. Et une grande partie de ces œuvres, en fait de Marie-Laurence aussi, bien sûr, mais une grande partie, un bon nombre de ces œuvres se trouvent maintenant dans les musées de l'Europe et notamment au Musée national d'art moderne, au Centre Pompidou.
Qu'est-ce qu'il est advenu de cette collection après la mort d'Apollinaire ?
Alors, la veuve d'Apollinaire, Jacqueline, qu'il avait épousée vers la fin de sa vie, elle était un peu plus jeune que lui, quelques années de moins que lui. Et après la mort d'Apollinaire, elle a tout conservé, comme une sorte de capsule, l'appartement du 202 boulevard Saint-Germain, exactement comme l'avait laissé le poète, avec le lit dans lequel il est mort, avec tous ses meubles, tous ses livres, toute sa bibliothèque et tous ses tableaux. On a ici, par exemple, dans l'exposition, une des œuvres clés de l'exposition pour moi, c'est Un homme à la guitare de Pablo Picasso, que Picasso a offert à Apollinaire comme cadeau de mariage. Alors, on ne peut pas imaginer un cadeau de mariage plus beau que ce tableau, qui est extraordinaire, et qui est maintenant dans un musée en Allemagne. Mais la bibliothèque d'Apollinaire a été conservée, heureusement. C'est à la bibliothèque historique de la ville de Paris.
Elle a vécu là.
Elle avait un petit endroit à la campagne, et puis elle venait souvent à Paris, et elle habitait là. Et elle recevait parfois des amis. Et moi-même, j'ai pu visiter cet appartement dans les années 70, quand tous les livres étaient en place, les sculptures africaines, les marionnettes, toute la collection très étrange d'Apollinaire, d'objets de marché aux puces, etc. C'était un lieu où il recevait les futurs surréalistes. C'est lui qui a fait rencontrer Soupeau et Breton, par exemple. Il a dit à Soupeau, il faut que vous rencontrez André Breton. André Breton était venu lui rendre visite quand il était en convalescence à l'hôpital. Et c'était déjà un peu une ambiance surréaliste avec ces objets trouvés, ces objets d'Afrique et d'Océanie. Une collection superbe de livres, beaucoup de livres érotiques, mais aussi des livres d'érudition, des romans, des poèmes, et puis des revues. C'est là que Soupeau et les autres découvraient, par exemple, les revues de Dada, parce qu'Apollinaire était en rapport avec toutes les villes d'Europe, y compris avec Zurich pendant la guerre. Et donc, il recevait les publications de Marcel Duchamp à New York, The Blind Man et Ronron, de petites revues, mais très importantes pour l'époque. Les revues étaient le moyen principal de faire circuler des idées. Et comme Apollinaire avait lui-même fondé plusieurs revues, il était en contact avec tous les producteurs de revues d'avant-garde du monde entier, entre New York, Zurich, Berlin, etc.
Cécile Girardeau se pose une question sur cette exposition, qui est peut-être la question qui vient la première à l'esprit, c'est Apollinaire, qui est avant tout un poète, quelle est au fond sa légitimité dans les arts plastiques, une légitimité qui va lui être contestée au fur et à mesure de la publication de ses articles. Alors, précisément, d'où lui vient sa connaissance des arts plastiques et au fond, d'où parle-t-il quand il explique les avant-gardes au public et aussi aux marchands?
Alors, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que, à l'image de son appartement et de la diversité des objets qu'on peut trouver dans son intérieur, c'est un homme du décloisonnement. Ce n'est pas un homme purement littéraire qui ne s'intéresserait qu'à la littérature. C'est quelqu'un qui a une insatiable curiosité pour tout ce qui se passe dans son époque et pour toutes les formes d'art, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que très vite, il est amené à être en contact avec des artistes et à écrire. Dès 1903, il rencontrait Dirix, pour qui il organise une exposition. Très vite, il fait la rencontre capitale avec Picasso en 1905, sur qui il écrit la même année, donc de manière extrêmement précoce. Et ce qui donne peut-être la légitimité, même s'il a été contesté souvent et longtemps durant le XXe siècle aux écrits sur l'art d'Apollinaire, c'est peut-être l'acuité de son regard. Tout de suite, c'est quelqu'un qui, au milieu des salons, au milieu des kilomètres de peinture qu'il peut apercevoir, tout de suite aura la perspicacité du regard pour trouver Chagall, pour trouver De Chirico, pour trouver Archipenko, alors que personne ne les a forcément vus avant.
Est-ce qu'il s'est trompé sur certains peintres aussi? Est-ce qu'il a dit ça, c'est les avant-gardes?
Il a parlé
Peter Reed, et en fait, ça n'est pas devenu, ça n'est pas resté?
Non, il ne s'est pas trompé.
Jamais.
En tant que journaliste, il couvrait, c'était son métier de couvrir tous les grands salons et toutes les expositions dans les galeries. Et donc, dans son journalisme, dans ses chroniques d'art, il parle de tous les artistes, de tout ce qui se passait à Paris. Et la plupart d'entre eux sont oubliés maintenant. Mais si on veut savoir ce qu'aimait vraiment Apollinaire, il faut regarder à qui il a dédié des poèmes et quels peintres lui ont inspiré des poèmes. Et là, on voit que c'est Picasso à qui il dédie un poème nommé de façon significative « Les fiançailles », Robert Delaunay, « Les fenêtres », Giorgio de Chirico, « Océan de terre », Chagall, « À travers l'Europe ». Et à part cela, il faut regarder le seul livre de critique d'art qu'a publié Apollinaire et qui s'intitule « Méditation esthétique, les peintres cubistes », publié en 1913. Et là, il fait un choix. Il voulait faire une série de livres. Mais pour son premier et seul livre, publié juste avant la guerre, qui sont les artistes qu'il choisit pour figurer dans ce livre, à qui il donne des chapitres. Bon, d'abord, il y a une ouverture qui est consacrée principalement au fauvisme. Après, il y a toute une série d'artistes. Cela commence par qui ? Picasso. Deuxième place, Braque. Après, il y a Marie-Laurent Saint et le douanier Rousseau. Il y a Glaize et Metzinger. Il y a Juan Gris, Fernand Léger, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon. C'est un choix absolument extraordinaire pour l'époque.
Mais c'est tous les amis aussi, ou presque.
Ah, absolument. Il était ami et il défendait les plus grands artistes de l'époque. Et le plus extraordinaire pour moi, c'est qu'il ait consacré un chapitre au très jeune Marcel Duchamp. Et en 1913, à ce moment-là, Duchamp avait arrêté de peindre, avait laissé tomber l'art, il travaillait à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il était devenu bibliothécaire. Mais Apollinaire avait confiance en Marcel Duchamp, il connaissait bien évidemment. Donc en choisissant, si on relit le chapitre qu'il dédie à Marcel Duchamp, il dit plus ou moins que le XXe siècle appartiendra à Marcel Duchamp, que Marcel Duchamp c'est l'avenir de l'art. Il dit, donc il avait une sorte de prescience extraordinaire.
Laurence Descartes, sur cette question de la légitimité d'Apollinaire, pourquoi est-ce que, à l'inverse, on lui a refusé cette légitimité, au moins dans les premières années ?
Je pense que c'est une question d'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'on a eu pendant assez longtemps une lecture parfois un tout petit peu dogmatique des avant-gardes, puriste en quelque sorte. Et je pense que notamment sur la question de l'histoire du cubisme, qui a été dominée notamment par ce que Canveller avait pu en dire, a pu en écrire.
Le
marchand de Picasso, on a le tandem Picasso-Braque qui évidemment est mis en avant et à juste titre, mais un petit peu à l'exclusion, si vous voulez, des autres sensibilités du cubisme. Et évidemment, à ce compte-là, des artistes comme Glaize ou Metzinger passent évidemment au second plan. Et pendant longtemps, on a eu quand même une lecture comme ça, un petit peu hegelienne des choses, en quelque sorte. C'est toute l'histoire des avant-gardes, c'est aussi vrai pour les avant-gardes de la fin du 19e siècle. Et puis, depuis quelques années, les historiens d'art se repenchent sur une lecture quand même un peu plus ouverte, un peu plus juste, historiquement aussi, notamment en se penchant sur les sources visuelles aussi, sur la culture visuelle qui entourait ces artistes à l'époque. Et on a un panorama qui est infiniment plus contrasté, plus riche, et donc c'est là qu'Apollinaire redevient pleinement légitime à nos yeux, puisqu'il témoigne de ce foisonnement, ses chroniques effectivement quotidiennes, il attrape absolument toute l'actualité artistique de la période, mais en même temps il pointe vraiment les artistes qui comptent et qui vont compter. Donc là, il y a vraiment une espèce de double niveau, en quelque sorte, dans la critique d'Apollinaire. Mais c'est ce double niveau est important, parce que aujourd'hui, on a toujours une tendance encore à isoler le chef-d'œuvre moderne comme s'il allait de soi. Mais Picasso crée, évolue dans un monde artistique, celui des salons encore. Hein, on est encore dans la grande période des salons, où il y a un foisonnement considérable, et il y a aussi beaucoup de médiocrité. Il y a aussi des choses très conventionnelles, des choses sans grand intérêt, et ça, très clairement, Apollinaire n'en parle pas. Parce que, à la différence, par exemple, de Baudelaire, pour reprendre un autre poète qui s'est préoccupé d'art, Baudelaire peut être très assassin dans sa critique. Il peut être vraiment très, très méchant. Apollinaire n'est pas dans cette posture-là. Il est dans une posture d'empathie à l'égard des artistes. Quand un artiste l'intéresse, même s'il y décèle des faiblesses ou quelque chose qui est plutôt en devenir, hein, on évoquait Marcel Duchamp à l'instant, c'est une empathie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du soutien, de la connivence en quelque sorte. On serre les rangs parce qu'on se préoccupe de la question moderne. Il sent qu'il y a là un point de rencontre possible entre poésie, littérature et art plastique. Donc c'est ça qui est, je pense, intéressant, mais il faut le replacer dans un contexte qui est plus riche, plus contrasté, et ça, c'est le rôle des historiens de l'art, notamment.
Mais son œil s'exerce aussi, parce que le douanier Rousseau, au départ, il ne comprend pas
Absolument. Peut-être qu'il n'aime pas. On le voit d'ailleurs changer un peu d'opinion sur le douanier Rousseau. Au départ, c'est pas un coup de foudre immédiat, on peut le dire. Et effectivement, il rentre dans l'univers du douanier Rousseau, jusqu'à en devenir un des vrais défenseurs, ou en tout cas inventeurs aussi dans cette perspective moderne, en quelque sorte, de la peinture.
Et les demoiselles d'Avignon, est-ce qu'on sait, alors c'est peut-être Peter Reed qui peut répondre sur cette question.
C'est évidemment Peter qui doit répondre sur le silence de d'Apollinaire sur les demoiselles d'Avignon.
Peter Reed.
Oui, il est vrai que c'est à l'honneur d'André Salmon d'avoir parlé des demoiselles d'Avignon et d'avoir présenté les demoiselles d'Avignon pour la première fois lors d'une exposition dans les galeries de Paul Poiret en 1916. Apollinaire a plutôt gardé le silence autour de ce tableau, mais il n'était pas un homme à être choqué ou à ne pas apprécier un tableau comme cela. Il était si proche de Picasso à cette époque.
On sait que quand Picasso lui a montré au bateau Lavoir, ça on le sait, et on ne connaît pas sa réaction exacte à ce moment-là.
On connaît sa réaction devant des esquisses préparatoires pour les demoiselles d'Avignon. Et dans son journal intime, il écrit, j'ai vu hier des œuvres extraordinaires de Picasso.
C'est là qu'il dit, il est dommage qu'il n'y ait pas de mots pour décrire...
Il n'y a pas de mots pour décrire cet art. Après, les demoiselles d'Avignon arrivent, après de longs efforts, la création de cette œuvre a duré longtemps. Et Apollinaire, il est vrai, il garde longtemps le silence. Mais je pense qu'il est, il mesure ses mots, mais il ménage aussi autour de Picasso un espace, parce qu'il sait que l'effort et la révolution qu'accomplit Picasso est en cours, et il ménage un espace de silence autour de Picasso à ce moment-là.
Donc ça, c'est un peu votre thèse, Peter Reed, de dire que si Apollinaire parle si peu du cubisme au moment où le cubisme se fait et où il est au centre de cette innovation, il en parle peu pour protéger Picasso et pour protéger les peintres cubistes de ce qui pourrait être une mauvaise réception de leur peinture.
Il est vrai que la presse, les médias de l'époque, c'était un environnement hostile pour ce genre de peinture. Et le mot cubisme, inventé par le critique Louis Vaucel, qui était profondeur en fait du cubisme, c'était un mot qu'Apollinaire n'aimait. Il a mis longtemps avant d'utiliser ce terme, parce qu'il n'aimait pas ce terme, parce qu'il savait que cela avait été inventé pour comme une arme pour critiquer et insulter.
Qu'est-ce qu'il a employé comme mot?
Il a adopté le mot cubisme à la fin, mais en fait, pendant un certain temps, il a laissé un silence autour de Picasso et de Braque. Et en cela, il suivait un peu la stratégie de leur marchand d'art, Daniel Henri Kahnweiler. Kahnweiler a conseillé à Picasso et à Braque de ne pas participer au grand salon, de ne pas montrer leurs œuvres et de travailler dans le secret, dans le silence. Et en fait, de travailler pour un nombre restreint de collectionneurs avertis, notamment Gertrude Stein, mais aussi Stukin à Moscou, etc. Et donc, je pense qu'Apollinaire a contribué un peu à cette stratégie qui était au fond un peu commerciale, mais qui a aussi permis à Picasso et Braque de développer leur art un peu à l'écart du grand marché.
D'ailleurs, Kahnweiler ne souhaitait pas qu'Apollinaire publie son essai sur les peintres cubistes.
Cela est vrai, il y avait une rivalité aussi entre Kahnweiler et Apollinaire à un moment. Apollinaire défendait Picasso depuis mai 1905. Il a donc reconnu le talent de Picasso et de Braque avant. Il connaissait Vlaminck depuis 1903. Donc, il avait l'impression d'avoir une certaine précédence. Et Kahnweiler était aussi très jaloux de son statut, une réputation méritée de pionnier et de promoteur des artistes les plus importants de l'époque. Et donc, il y avait, je crois que Kahnweiler...
Les compétitions pour savoir qui est-ce qui allait incarner, celui qui révélerait les peintres cubistes.
C'était un capital intellectuel. Mais aussi pour Kahnweiler, c'était un capital financier aussi. Et il aimait bien contrôler son domaine et il n'aimait pas qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent et donc de façon trop voyante, disons.
Cécile Girardeau, si vous voulez bien, vous allez nous accompagner jusqu'à la pièce suivante et nous dire un petit peu quel est son principe.
Cette pièce s'appelle, c'est une section qui a été intitulée « Le regard en liberté » et qui montre en fait l'éclectisme qu'on peut trouver finalement dans la formation de l'esprit d'Apollinaire et qui se matérialise notamment dans l'agencement de son appartement dont on a parlé tout à l'heure. Et donc c'est vrai qu'on a mis en regard diverses choses. Donc alors on a notamment donc des images de l'appartement et un petit film où Jacqueline fait visiter l'appartement donc du 202 boulevard Saint-Germain, qui était surnommé le pigeonnier puisqu'il était sous les toits. Et donc on retrouve donc en regard de ces images des objets qui ont réellement appartenu à Apollinaire. Donc on peut voir dans la vitrine en face donc les marionnettes qui étaient accrochées dans son appartement, les képis qui lui ont appartenu, et puis aussi des pièces d'art africain, de très très belles pièces d'art africain qui sont aujourd'hui soit dans des musées nationaux comme le Quai Branly ou dans des collections privées. Et puis c'est vrai qu'on peut voir aussi son goût extrêmement éclectique à travers son goût pour le cirque, puisque c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux arts du spectacle, Medrano notamment qu'il aimait beaucoup, l'art de l'affiche aussi qu'il aimait particulièrement, où il souligne dans sa critique notamment son goût pour l'art de Capiello et les petits génies qui enchantaient les rues de Paris grâce à ses affiches.
Mais qu'il considérait vraiment comme de l'art à part entière.
Oui.
Et c'est là où le Janus, comme vous l'appelez, se fait jour, puisque il se réinvente à la fois dans les arts populaires, dans l'avant-garde, dans le classicisme. Il fait vraiment feu de tout bois.
Oui, absolument. Je pense que c'est un esprit qui ne hiérarchise pas, il n'y a pas un système des beaux-arts établi, c'est-à-dire que tout ce qui est moderne, tout ce qui attire son regard, et quelle que soit la forme que cela prend, peut l'intéresser. Et on le voit d'ailleurs même aussi dans la diversité de sa bibliothèque. Il y a des éditions précieuses, bien sûr, d'auteurs classiques, mais aussi des éditions très bon marché, avec des éditions de Fantomas. Et Fantomas, pour lequel il crée une société des amis quelques années plus tard aussi. Son goût pour le cinéma, qui sera extrêmement important. Et c'est vrai que dans cette salle, on a mis aussi en regard des œuvres eh bien, un peu plus anciennes, puisque Apollinaire, en fait, donc, on l'a vu aussi, s'intéresse effectivement à des périodes plus anciennes. Il va à la bibliothèque Mazarine, où il consulte des ouvrages anciens. Il a aussi un goût
pour le Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge, absolument, avec la figure de Lancelot, notamment, et puis une manière d'écrire qu'on retrouve peut-être dans l'Hérésiarque aussi, qui s'inspire parfois de périodes plus anciennes. C'est quelqu'un qui a un regard aussi avec une grande acuité sur la sculpture, ce qui est plus rare aussi pour des critiques d'art. Et notamment, dans cette salle, on présente une sculpture de Rude et la tête de la Marseillaise, qui pour lui était l'incarnation du sublime moderne, comme il l'écrit. Et donc finalement, même dans les arts du passé, il trouve des traces de modernité et qu'il met en regard avec des objets d'autres époques et avec un décloisonnement justement entre art du spectacle, art de l'affiche, sculpture, tous les arts peuvent dialoguer ensemble.
Si on n'avait pas peur de faire d'anachronisme, Laurence Descartes, on dirait qu'il y a un côté pop art dans sa démarche.
Oui, si vous voulez. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un homme de la table rase. C'est-à-dire que c'est un homme qui se pose la question du moderne, mais qui se pose la question du moderne de façon ample et décloisonnée, comme le disait Cécile. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une vision théoricienne ou dogmatique de la question moderne, de l'expression moderne. C'est quelqu'un qui est dans le sensible, en fait, et sa critique en témoigne. On n'applique pas un système, une grille de lecture de l'art qu'il regarde, mais on trouve effectivement des traces, en quelque sorte, du moderne chez les artistes contemporains, comme chez des œuvres, dans des œuvres plus anciennes ou des œuvres qui viennent de domaines d'expression anonymes, populaires, extra-européens. C'est ça qui l'intéresse. Et donc, ça donne cet éclectisme et ça donne aussi quelque chose. Enfin, il faut insister sur le lieu de cet appartement du boulevard Saint-Germain parce que, bon, d'abord, on a de la chance d'avoir des images. Hein, il a été filmé et c'est vraiment un lieu, c'est un peu un laboratoire. Au fond, quand on pense, et on a dans la dernière salle de l'exposition les témoignages radiophoniques, notamment d'André Breton, de Soupeau, de Pierre Lambiro, etc., sur la visite à Apollinaire dans l'appartement, en fait, aussi, qui est un lieu qui est presque, c'est presque le mur d'André Breton avant l'heure. On voit très bien que là, il y a des effets de collage, il y a quelque chose déjà de l'univers mental, esthétique du surréalisme qui se met en place dans ce décloisonnement, ces intérêts extrêmement divers dans lesquels on cherche des échos en permanence, des phénomènes d'écho, de résonance. Et ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement moderne.
On peut parler un petit peu de la guerre, peut-être, Peter Reed, de la démarche d'Apollinaire qui ne va pas être du tout la même que celle de ses amis peintres et notamment que celle de Picasso.
Oui, Apollinaire était né à Rome, de descendance polonaise. Dans les documents officiels, c'était souvent marqué sujet russe, parce que la Pologne démembrée appartenait à la Russie.
Il avait un prénom allemand, Wilhelm.
Il s'appelait Wilhelm de Kostrowitzki, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki. Et donc, il n'était pas du tout obligé de s'engager.
Comme Picasso, qui était espagnol,
absolument,
et qui n'était pas obligé de s'engager
absolument
non plus, et qui ne l'a pas fait d'ailleurs.
Apollinaire a choisi de s'engager dès le départ, comme Blessandrard, comme énormément d'étrangers à Paris. Paris était menacé, on envoyait les soldats pour la bataille de la Marne dans des taxis et dans des autobus, c'était si près. Et donc c'était en quelque sorte pour sauver Paris qui avait adopté Apollinaire. C'était aussi, en s'engageant, un moyen d'obtenir une nationalité. Il était fils illégitime et sans patrie. Et en s'engageant, il a obtenu la nationalité française. Et il était fier de cette nationalité et d'appartenir à l'armée française et à la nationalité française.
Oui, parce que ce n'est pas qu'un papier administratif, évidemment, pour Apollinaire, qui peut-être se sentait en manque d'une appartenance aussi.
Mais il a écrit un très beau poème qui s'appelle « Les soupirs du servant de Dakar », qui est sur, en fait, un tirailleur sénégalais. Et ce poème est extraordinaire parce que je pense que c'est le seul poète qui se soit mis dans la peau d'un soldat noir dans l'armée française. Et ce soldat se souvient de son village dans la forêt et des danses et des sculptures, les fétiches de la fécondité. Il pense aux orages, il pense à sa famille. Et il est là, en uniforme, sur le front de Champagne. Et il dit, maintenant je suis soldat français, on m'a blanchi du coup. Le soldat sénégalais dit cela dans le poème d'Apollinaire. Et Apollinaire lui-même, qui avait été un peu le mouton noir aux yeux d'une partie de la population française, il avait été emprisonné en 1911. Il a passé plusieurs journées à la santé, de façon tout à fait injuste. Il avait été attaqué dans les journaux d'extrême droite. Comme il était polonais, on le traitait de juif polonais.
Et puis il défendait l'art étranger, l'art dit étranger.
Absolument, il défendait ses artistes russes, polonais, américains et autres. Et Apollinaire avait toujours d'ailleurs défendu toutes les minorités, y compris les Juifs de la rue des Écouffes et de la rue des Rosiers qui figurent dans son grand poème Zone. Mais il s'était senti attaqué, il était fragilisé par cela. Et je pense que cela est une des raisons, sur le plan psychologique peut-être, de son engagement. Mais il avait aussi ce vrai désir de se battre. Il croyait qu'il se battait pour défendre la liberté de l'expression et les valeurs de la France, la culture latine qui était menacée par une invasion.
Il vivait la guerre comme une épreuve presque dionysiaque de sa virilité et il dénonce les embusqués parmi lesquels on trouve donc Picasso. Est-ce que cela va créer des dissensions entre les deux amis ?
Oh, pas du tout. Il n'avait pas du tout l'attitude que vous décrivez, en fait. Comparé à d'autres poètes de la Grande Guerre, il utilise très rarement des mots insultants comme « Bosch », etc. Il avait été très proche d'Erwart Walden en 1900, janvier 1913. Il était allé à Berlin avec Robert Delaunay. Il avait de bons amis en Allemagne. Avec Delaunay, ils étaient arrêtés sur le chemin de retour à Bonn. Ils avaient logé chez Auguste Mack. Et il avait rencontré Apollinaire à cette époque-là, avant la Grande Guerre, avait rencontré Max Ernst. Et il mentionne Max Ernst dans ses chroniques d'art. Donc, il était tout à fait ouvert avant la guerre à une fraternité européenne. Comme Freud, il croyait à l'Europe. Cette guerre qui s'est éclatée, il n'est pas parti avec l'enthousiasme qu'on prétend, en fait. Mais il voulait vraiment défendre ce qu'il croyait être des valeurs menacées. Chez Apollinaire, on cite toujours le vers « Adieu que la guerre est jolie ». Adieu que la guerre est jolie. Mais on cite ce vers hors de son contexte. Et la suite du poème, le premier vers commence « Adieu », une expression d'étonnement, d'émerveillement devant le spectacle de la guerre en tant que feu d'artifice. Mais la trajectoire de ce poème est tragique parce qu'après « Adieu » vient « Adieu ». Et le narrateur meurt dans un tournant. Et donc, Apollinaire exprime une réalité de cette guerre, des gens qui sont partis remplis d'enthousiasme et qui ont rencontré un destin tragique, comme était le sien.
Laurence Descartes, passons d'une pièce à l'autre, comment avez-vous pensé le parcours de cette exposition ?
C'est un parcours essentiellement thématique, un peu chronologique aussi. Avec une première salle qu'on a traversée tout à l'heure qui installe un peu la biographie et les relations avec les artistes d'Apollinaire, l'éclectisme, le regard en liberté d'Apollinaire. Et là, nous nous trouvons un peu au cœur de l'exposition avec une salle qu'on a appelée Méditation esthétique. C'était immanquable. Et où on déploie, le titre du seul recueil d'Apollinaire, en fait, consacré effectivement aux arts de son temps. Et là, on déploie, j'allais dire, le regard le plus complet possible d'Apollinaire sur les avant-gardes de son temps, en commençant par un mur d'ailleurs dédié au fauvisme, qui est évidemment un point de départ, la première avant-garde du XXe siècle, on peut le caractériser de cette manière-là, et puis bien entendu ce grand déploiement autour de la question du cubisme, le cubisme, j'allais dire, sous toutes ses formes, du cubisme pur et dur jusqu'à aussi l'orphisme, qui est un terme qu'invente Apollinaire, notamment autour de Delaunay.
Qui invente le terme surréalisme aussi.
Qui invente, oui, pour les mamelles de Tirésias, pour le spectacle qu'il crée en 1917. Il y a un vrai don, de ce point de vue-là, d'invention, en fait, littéraire. Mais là, si vous voulez, c'est un grand déploiement qui permet justement de retrouver l'ampleur du regard d'Apollinaire et en même temps de pointer les grands artistes, ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les artistes d'ailleurs auxquels il a dédié parfois des poèmes. On a le cas avec le très beau Chagall, Paris par la fenêtre, qui résume à lui seul cette passion d'Apollinaire pour Chagall, le Chagall de cette période, qui doit beaucoup au cubisme aussi, qui médite évidemment déjà la révolution cubisme dans son univers poétique évidemment, mais on y trouve aussi Glaise, Metzinger, Duchamp aussi, avec deux versions du nu descendant l'escalier, donc un point évidemment absolument fondamental du retour de Duchamp vers la peinture, méditant la leçon du futurisme et du cubisme. Picasso, bien sûr, déjà très à l'honneur, auquel on consacre après une section entière. Et puis, tout un déploiement qui nous amène notamment, en conclusion, si je puis dire, aux fenêtres de Delaunay, parce que c'est quand même un point, un sommet, là aussi, on peut le dire, de la rencontre d'Apollinaire avec deux très grands artistes, hein, aussi bien Robert que Sonia Delaunay.
Et quand il critique
Alors, tous ces artistes, est-ce qu'il fait preuve ici aussi de talent littéraire? J'imagine qu'il ne laisse pas son talent littéraire à la porte quand il rédige des critiques. Comment sont écrites ces recensions?
Alors, je crois qu'il y a quand même plusieurs types de textes, comme le soulignait Peter Reed, c'est-à-dire qu'il y a les textes, si vous voulez, la chronique pratiquement quotidienne de l'actualité artistique de Paris, qu'on trouve notamment dans l'Intransigeant entre 1910 et 1914. Alors là, ce sont des textes écrits forcément très très vite au quotidien, avec des petites notations rapides où il caractérise une exposition, le tableau d'un artiste, avec parfois des choses très justes, des choses aussi écrites évidemment très vite et qui n'ont pas toujours une qualité littéraire exceptionnelle. Et puis en revanche, évidemment, il y a le grand recueil de méditation esthétique où là il y a des textes extraordinairement pensés et justes sur un certain nombre d'artistes. Et il y a la poésie, parce que là, une fois de plus encore, je crois qu'on ne peut pas évidemment séparer, si vous voulez, complètement l'activité de critique et le poète. Les deux sont forcément intimement liés. Il me semble que ça n'aurait aucun sens de dire voilà, on va s'occuper que de Apollinaire critique d'art, donc la poésie c'est moins notre problème. Non, bien sûr, les deux sont liés.
Il n'y a pas beaucoup de poésie dans cette exposition.
Non, il y a quelques citations. Il y a bien sûr quelques citations, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on peut pas comprendre une création comme Zone sans réfléchir aux révolutions aussi plastiques, formelles, à mon avis, de cette période. Les révolutions en termes de l'absence de ponctuation, par exemple, pour prendre cet exemple-là, calligrammes, comme on l'a déjà dit, les calligrammes sont des inventions qui sont en relation profonde avec les arts de cette époque, enfin ce qu'il a aimé, en tout cas.
Est-ce que vous diriez, Peter Reed, que la poésie d'Apollinaire, elle est aussi plastique, graphique, visuelle?
Oui, absolument. Il a publié un recueil nommé Calligramme, dans lequel il y a des poésies picturales. Mais déjà, dans Alcool, il est très sensible à la mise en page. Et un poème tel que Le Pont Mirabeau, par exemple, avec ce refrain qui revient régulièrement, ressemble à la Seine qui ondule à travers Paris, traversé régulièrement par des ponts. Et donc, déjà, le pont Mirabeau, quand on le regarde dans Alcool, cette page, est une poésie picturale.
Mais ça, c'est la mise en page. Absolument. Mais dans les poèmes eux-mêmes, est-ce que vous diriez que c'est un poète du regard, un poète de l'œil?
Ah oui, absolument. Je pense que, quand on pense au 19e siècle, on pense par exemple à Verlaine. Verlaine disait « de la musique avant toute chose ». Mallarmé a dit « il faut prendre à la musique son bien ». La révolution opérée par Apollinaire dans la poésie, c'est une révolution du regard. Et dans ces poèmes, ce sont des poèmes, la poésie du 20e siècle sera moins tournée vers la musique et plus vers l'image. Et sa poésie est une poésie d'images, souvent d'images contrastées, juxtaposées. Et donc, souvent dans sa poésie, Apollinaire prend au peintre son bien.
Cécile Girardot, est-ce qu'avec vous, on peut aller à la salle suivante et s'acheminer vers la fin de cette exposition?
Alors, on va pénétrer dans une section qui est dédiée au lien entre Apollinaire et Picasso. Et en fait, on arrive avec, dans la perspective, le fameux cadeau pour le mariage. Et donc, le joueur de guitare.
Qui était au-dessus de son lit.
Voilà.
Au-dessus de leur lit.
Juste à côté.
Coup,
en fait, un petit peu. Je crois qu'il y avait Marie-Laurencin au-dessus du lit.
Oui, Apollinaire et ses amis au-dessus du lit. À un moment, il avait une très belle toile, un des premiers cadeaux de Picasso, qui était un couple nu, enlacé au-dessus de son lit. Et quand on regarde bien, c'est un couple de femmes nues, enlacées. Ce cadeau de mariage était aussi accroché dans sa chambre, qui était aussi le salon dans lequel il recevait ses amis.
Et dans les photographies de l'appartement, on le voit un moment dans le reflet de le miroir de l'armoire. Et donc, dans cette salle, il y a plusieurs toiles qui sont merveilleuses. Donc le cadeau de mariage, une toile cubiste qui vient donc de Prague, du musée des Beaux-Arts de Prague, et dont le lettrage en fait utilisé par Picasso, donc qu'il a reproduit le lettrage en peinture, donc comporte les lettres Soirée de Paris, en hommage en fait à la revue dirigée par Apollinaire, qui paraîtra plusieurs années, et dans laquelle, en fait, Apollinaire avait coutume de reproduire des œuvres de l'avant-garde, des œuvres d'artistes qu'il soutenait, dont celle-ci.
Voilà. Et puis, il y a un tableau de Marie Laurencin, et là, il faut parler quand même du rapport entre Apollinaire et Marie Laurencin, qui se sont aimés. Qu'est-ce que cela a changé dans le regard d'Apollinaire de vivre cette histoire d'amour avec Marie Laurencin?
Alors, donc c'est grâce à Picasso, en fait, qu'il fait la connaissance de Marie Laurencin. Et Marie Laurencin n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme artiste, c'est une femme peintre, une femme très moderne, qui, en fait, vit de son art. Donc, c'est quand même quelque chose de très important pour l'époque. Et en fait, elle incarne aussi pour lui, disons, peut-être les ambiguïtés et des choses qu'il fascine dans l'époque. Et il dira d'elle, plus tard, elle était la laideur et la beauté. Elle est comme tout ce que nous aimons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle avait ce paradoxe en elle et ses qualités. Et donc, voilà, je pense que cette rencontre a été importante puisque ça la nourrit aussi artistiquement.
Peter Reed.
On est devant une des versions d'Apollinaire et ses amis, par Marie Laurencin. Et Apollinaire a parlé de ce tableau dans ses chroniques et il a dit que ce qui est frappant, c'est l'harmonie des couleurs, mais aussi le sens de la construction. Et chez Marie Laurencin, ce qu'il souligne, c'est ses capacités architecturales. Ce n'est pas du tout le côté très féminin, voire un peu mièvre, que l'on voit dans les œuvres plus tardives de Marie Laurencin, d'après la Grande Guerre. Apollinaire reconnaît chez Marie Laurencin une force qu'il définit même de virile. Et donc il voit vraiment la force de caractère de Marie Laurencin. Et quand on lit la correspondance entre Apollinaire et Marie Laurencin, on voit que Marie, en effet, a beaucoup de caractère et se plaint souvent du fait qu'Apollinaire le délaisse pour ses amis Picasso et Matisse. Apollinaire était un grand défenseur des femmes artistes, d'ailleurs. Je dirais que c'est une des spécificités de sa critique d'art et de ses chroniques. Il écrit sur Sonia Delaunay, Natalia Goncharova, Marie Laurencin, Agut, l'épouse de Marcel Samba.
Disons qu'il ne fait pas de différence, ou est-ce qu'il cherche au contraire à promouvoir, précisément parce que ce sont des femmes, leur art aux yeux du grand public?
Disons qu'en se promenant dans les salons, il est très, très attentionné, il est très susceptible au talent des femmes peintres. Et il souligne l'importance, par exemple, des femmes de l'avant-garde russe qui viennent à Montparnasse et qui montrent leurs œuvres dans les salons.
Et puis ce soir, on s'en ira au cinéma. Les artistes que sont-ce donc? Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs et les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma. Le cinématographe. Oh, si, mon Dieu, faut-il avoir du goût?
Laurence Descartes, dans cette dernière salle. Alors, Paul Guillaume, ici à l'Orangerie, évidemment.
Il est chez lui.
Il est chez lui. Il a son petit cabinet spécialement pour lui.
Et puis, une grande partie de sa collection est aujourd'hui conservée par le musée de l'Orangerie. La collection Walter Guillaume vient, en fait, le noyau central vient de la collection personnelle, donc de Paul Guillaume, qui a eu une activité importante de marchand dans les années 10, 20 et début des années 30.
Il commence dans un garage, c'est ça qui est
étonnant. Oui. C'est un personnage. C'est très romanesque, l'histoire de Paul Guillaume. Il commence effectivement dans un garage de l'avenue de la Grande Armée, dans le commerce du caoutchouc pour les voitures, tout simplement. Et là arrivent des objets africains dont qui l'intéressent énormément. Enfin, je pense qu'il y a un coup de cœur sincère, esthétique, là aussi, pour ces objets complètement d'une altérité définitive, si vous voulez, dans le goût de l'époque. Et il commence à en faire un peu le commerce. Et c'est par le biais de cet intérêt pour l'art africain et de ce commerce naissant autour de l'art africain
américain, hein, on est en 1909-1910, que Paul Guillaume va rencontrer Apollinaire. Donc c'est vraiment, la question de l'art africain est un point important, est un lien très important entre les deux hommes, et donc c'est pour ça qu'on a mis cette question à l'honneur dans cette salle, parce que ce sont des choses qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, mais il faut se remettre là encore dans le goût de l'époque, le goût dominant de l'époque, s'intéresser sincèrement, là encore avec un regard esthétique sur l'art africain, c'est une véritable révolution du regard auquel Apollinaire participe pleinement.
Donc il y a ces statuettes dont j'imagine que c'est Paul Guillaume qui les a vendues à Apollinaire.
Oui, alors ça c'est des objets qui ont appartenu en fait à Paul Guillaume. Alors c'est complexe parce qu'il y a eu parfois, alors on a vu des objets qui ont appartenu à Apollinaire, ils ont parfois échangé des œuvres, ça se faisait quand même beaucoup entre collectionneurs et amateurs, mais là vous avez un ensemble d'objets qui ont appartenu à Paul Guillaume et qui sont aujourd'hui, qui font partie des collections nationales françaises. Paul Guillaume ayant donné dès les années 20 d'ailleurs au musée du Trocadéro, hein, qui était le musée consacré aux arts extra-européens à l'époque, par exemple ces bois de lit de Madagascar, qui sont de très belles pièces qu'on a eu peu l'occasion de voir et qu'on redécouvre aujourd'hui. Et je pense que ça là encore, ça enrichit le regard de Paul Guillaume, collectionneur marchand de l'art moderne, d'un certain art moderne, d'un certain art figuratif aussi au XXe siècle. Voilà, tout d'un coup, on retrouve peut-être une acuité, une pertinence de ces choix qui me semble intéressant de redécouvrir. Oui.
Peter Reed, c'est vous qui avez rédigé l'article sur Apollinaire et les marchands.
Oui, absolument. Et nous préparons la publication de la correspondance entre Apollinaire et Paul Guillaume, qui doit sortir le 15 avril chez Gallimard et Musée de l'Orangerie.
Quelle idée retenir de donc, ces rapports-là
Moi, je pense que cela encore, cette exposition s'appelle Le regard du poète, et Apollinaire avait une sorte de radar, en fait. Quand il allait dans les grands salons, il reconnaissait le talent de Chagall, de Kiriko, de Goncharova et les autres. Il a tout de suite reconnu le talent de Picasso en 1905, quand il l'a découvert à cette époque-là. Et quand il a rencontré Paul Guillaume en 1911, selon Max Jacob, il a tout de suite reconnu l'avenir que portait Paul Guillaume. Et il a adopté, en quelque sorte, Paul Guillaume avait 11 ans de moins qu'Apollinaire. Apollinaire a déjà été ami avec Matisse et les autres, et il avait vu l'importance donnée par ces grands artistes à l'art africain à partir de 1905-1906. Et c'est lui qui a, dès le départ, encouragé Paul Guillaume.
Qui avait 19 ans hein, quand il a commencé.
Absolument, il était tout jeune. Mais avec beaucoup d'ambition et beaucoup de perspicacité, beaucoup de talent, Paul Guillaume. Mais c'est Apollinaire qui a présenté Paul Guillaume à Picasso, qui a présenté Paul Guillaume à Giorgio de Chirico, qui a emmené Goncharova et Larionov chez Paul Guillaume. Et Paul Guillaume leur a donné la première exposition de sa galerie. Et c'est encore Apollinaire, quand Paul Guillaume travaillait dans ce garage où il recevait des fétiches d'Afrique avec des cargaisons de caoutchouc. Le jeune Paul Guillaume mettait de ses sculptures dans la vitrine de ce garage. Apollinaire avait vu une de ses sculptures dans la vitrine et il a contacté le marchand d'art Brumaire. Il a signalé à Brumaire que ce jeune homme avait des sculptures africaines très intéressantes. Et donc Brumaire est entré dans le garage, a rencontré Paul Guillaume et a acheté une sculpture pour 10 francs. Et par la suite, lui a acheté toute une série d'œuvres jusqu'à la Grande Guerre à des prix qui n'allaient qu'en augmentant. Et donc Apollinaire était vraiment à la base de la carrière de Paul Guillaume, si vous voulez.
Donc on voit qu'il a été un facilitateur. On n'a pas dit, parce qu'on n'a plus le temps de le dire, que c'est lui qui a fait se rencontrer Braque et Picasso, ce qui est quand même pas une petite étape dans l'histoire de l'art. Ouais. Et quand Apollinaire meurt en 1918...
Le 9 novembre 1918, 5 heures du soir.
Cela laisse un vide dans le monde des arts plastiques à Paris, en France, dans le monde.
Ça laisse un vide et aussi quelque chose a été cassé par la Grande Guerre. Vous avez dit tout à l'heure que les artistes que défendait Apollinaire, c'était ses amis. Mais le fait est que avant la Grande Guerre, Montparnasse, c'était un petit monde. Montmartre et Montparnasse, tout le monde se connaissait. les artistes, les écrivains et les musiciens. La Grande Guerre a créé une grande diaspora. Apollinaire était un homme de rencontre. Il essaye de créer une sorte de front uni de toute la créativité contre les forces hostiles au renouveau. Mais après la Grande Guerre, c'était un monde beaucoup plus conflictuel, en fait. Et Apollinaire manquait. C'était un homme de réunion et de rencontre, en fait.
Merci à vous trois, Peter Reed, Cécile Girardeau, Laurence Descartes. Jusqu'à quand peut-on visiter cette exposition ?
Jusqu'au 18 juillet, au musée d'Angers.
Retour en studio où il est 15h55, vous écoutez France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie dans la compagnie des auteurs. Et cette semaine, Jacques Bonnafé vous propose d'ouvrir avec lui le courrier qui lui arrive et dans lequel il trouve des livres de poètes contemporains. Aujourd'hui, deux poètes importants concluent la semaine, Alain Jouffroy et Gérard Mancé. Nous les écoutons par la voix donc de Jacques Bonnafé.
Bonjour. Dans le courrier du lecteur, cette semaine, il y avait cette petite actualité. L'édition Poésie Gallimard fêtait ses 50 ans. Oui, la création de cette très célèbre édition de poche doit beaucoup à Alain Jouffroy, mort le 20 décembre 2015. Passé par l'absence de porte, Alain Jouffroy, c'est aujourd'hui toujours aux éditions Gallimard Poche. Heureusement, par miracle, par souci de tranquillité, par appétit du malheur, par esprit de camaraderie, par lâcheté, par folie du sacrifice, par résignation, par un coup de tête, heureusement par 1000 coups de tête, heureusement par 3 milliards de coups de tête, hélas 100 000 fois, hélas par bêtise, par passion, heureusement 100 000 fois, par amour, par sensualité, hélas 1000 fois, hélas 400 000 fois, par hasard, je suis passé, je ne suis pas passé. Je refuse de passer. Je m'oblige à passer. Je crois que je vais passer. Je redoute de ne pas passer. Hélas, par les portes de derrière les portes, par l'absence de 7e porte, par le trou où nul n'est apparu. Hélas, 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 1000 fois, hélas, mon gardien de musée, cher gardien de 365 portes de Toussaint l'ouverture, très cher gardien des 120 journées de Somane. Hélas, hélas, je ne suis pas passé, mais par les portes de la cascade, par les portes emportées dans la débandade, par les portes enfoncées les unes après les autres, par les caves du vieux navire fracassé, par mon corps, par ma tête, par ma cataracte, par l'absence même de porte, je suis passé. Je passe. Je ne cesserai jamais de passer. 1962. Dans la boîte à courrier, il y avait Le temps qu'il fait, cette édition nouvelle dont les très beaux livres sont souvent consacrés à la poésie anglaise avec Auden, ou à de nombreux auteurs. Nous avons reçu Homère au royaume des morts à les yeux ouverts. Recueil de Gérard Massé. Dans la deuxième partie, nous tombons sur Les restes du jour. Les premiers pas dans la neige qui vient de tomber, le premier sommeil dans les draps qu'on vient de changer, et dehors, le grand bûcher où brûlent les idées noires. La pierre qui a connu le drame de l'univers, la pierre au cœur refroidi qui nous sert de table au jardin. Des ombres dont les pleins s'allongent dans des liées, le paraffe d'un pain parasol comme si la nature voulait signer son œuvre en fin de journée. Des abeilles enfermées dans un tambour par un enfant qui voulait imiter l'orage. Une fleur, peut-être même une rose, au pied du lit le corsage dégrafé, le linge déboutonné d'une femme qui s'apprête à plonger nue dans le sommeil. Ce qui reste des rêves, autrefois des bois brûlés, un tas de cendres après le départ d'un camp de nomades, aujourd'hui des sacs plastiques entre les branches d'un arbre. La mélancolie rincée, plus essorée qu'une serpillière qui n'en peut plus d'essuyer. Le lait qu'on renverse, le sang qui sèche et le caillot du soleil couchant. Un long dimanche en famille dans les bois dont on fait les flûtes et les cercueils. Les bois couronnés de feuilles qui frémissent comme des filles encore jeunes.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes d'Alain Jouffroy et Gérard Manset dans la compagnie des auteurs pour conclure une émission enregistrée aujourd'hui à l'exposition Apollinaire, le regard du poète qui se tient au musée de l'Orangerie à Paris, a signalé le très beau catalogue de cette exposition, ainsi que la correspondance d'Apollinaire avec le marchand Paul Guillaume qui paraît chez Gallimard sous la houlette de Peter Reed et Laurence Campa. Surtout, n'hésitez pas à télécharger cette émission ou à la réécouter directement sur le site de France Culture en attendant lundi prochain et une série d'émissions tout entière consacrée à la formidable Karen Blixen, auteure notamment de La Ferme Africaine. Nous parlerons de sa biographie avec Dominique de Saint-Pern. Et puis demain, vous retrouverez Mathieu Conquet pour Continent Musique avec Bernard Lubat. Cette émission était réalisée par Laurence Millier, enregistrée à l'Orangerie par Frédéric Kérou. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. On continue de parler de la Grande Guerre avec la Marche des Sciences. Tout de suite sur France Culture, c'est Aurélie Luneau. Restez avec nous.